France Inter, le 18-20.
On va pas refaire l'histoire, hein. Elle court depuis 50 ans, l'histoire d'un projet d'aéroport qui ne sortira donc jamais de terre, l'histoire d'une discorde, l'histoire de procès contre procès, l'histoire d'études et contre-études, l'histoire d'un référendum à bout d'arguments, l'histoire d'une zone de non-droit pour les uns, d'une zone à défendre pour les autres, bref, l'histoire a un épilogue et c'est aujourd'hui, il n'y aura pas d'aéroport Notre-Dame-des-Landes à la place. Vous avez entendu sans doute le Premier ministre parler de travaux sur l'aéroport actuel en incluant, a-t-il dit, les nuisances sonores. Vous avez entendu parler de redistribution du trafic aérien et de meilleurs accès aux aéroports parisiens. Vous avez entendu aussi que la ZAD devra disparaître, mais que des projets d'installation seront examinés. Bref, on est reparti pour tout à fait autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est à vous de nous le dire. À vous de jouer.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Bruno, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu. Vous êtes nantais, donc vous savez de quoi vous parlez.
Je ne sais pas si je maîtrise tout à fait l'intégralité des dossiers, mais merci de prendre mon appel. Effectivement, j'habite dans la région nantaise et j'ai eu l'occasion aussi de m'exprimer lors de la consultation qui avait été organisée. Moi, je ne vous cache pas que c'est une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui.
Donc vous aviez voté non, Bruno?
J'avais voté non. J'avais plutôt milité autour de moi aussi pour que ce soit un vote non. Mm-hmm. Après, la consultation avait été faite et... Voilà, il y a un fait majoritaire et je m'y pliais. Maintenant, je suis satisfait de la décision qui a été prise par le gouvernement. Je pense qu'il y aura d'autres interventions derrière sur les enjeux économiques, écologiques du projet. On ne va pas refaire l'histoire. Mais moi, ça soulève quand même un certain nombre de questions sur le fonctionnement de notre démocratie. Parce que ça me laisse un petit peu un goût amer, cette séquence-là. Que pour en arriver à ce que le projet soit étudié de manière, je pense, réellement contradictoire avec un collège d'experts qui a étudié d'autres alternatives, il a fallu quand même tout un processus assez douloureux, y compris avec des actions, d'activistes. Et est-ce que c'est un bon signal, ça? Comment fonctionne notre démocratie s'il faut en passer, entre guillemets, par là? Je cautionne pas, hein, mais moi, ça m'interroge. C'était une période un peu compliquée et pour avoir vu les dégradations qu'il y a eu à Nantes et puis et des images assez, je peux comprendre que à un moment la population en ait eu marre de certaines personnes qui ont commis ces dégradations dans la ville et autour et que peut-être qu'on a voulu se débarrasser de ces personnes et en même temps
On a bien compris vos interrogations, Bruno, et aussi cette ambivalence finalement qui est intéressante parce que vous avez voté non et en même temps au final vous vous interrogez aussi sur la manière dont la démocratie peut fonctionner et merci d'entamer le débat grâce à votre question pour en discuter ensemble jusqu'à 20h. David Cormand est avec nous, bonsoir. Vous êtes secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts et Mathias Crouzet est là également. Bonsoir monsieur Crouzet. Vous êtes vice-président des Ailes pour l'Ouest qui défendait le projet d'aéroport. Vous êtes en duplex depuis Nantes, chez nos amis de France Bleu, Loire-Océan, qu'on salue et qu'on remercie au passage. David Cormand, sur le fond, il y a beaucoup de questions comme ça sur le fonctionnement de la démocratie. C'est normal qu'on se pose ce genre de questions puisqu'il y a eu études, il y a eu procès, il y a eu décision de justice, il y a eu référendum. Et tout ça, finalement, se termine sur une décision politique. Qu'est-ce que ça dit quand même de notre fonctionnement démocratique?
Mais moi, je suis très touché par l'intervention de Bruno, parce que ce qu'il soulève comme sujet, un sujet qu'en tant qu'écologiste, on n'a pas cessé de soulever depuis l'origine de ce débat sur ce projet d'aéroport, en disant, mais est-ce qu'au fond, on pose les bonnes questions? D'ailleurs, lors de cette consultation, ce que nous avions regretté à l'époque, en dehors de la question du périmètre du vote, qui est un sujet important, mais qui est un autre sujet, qui était de dire, plutôt que de dire pour ou contre le nouvel aéroport, n'aurait-il pas davantage fallu proposer l'alternative? C'est-à-dire, est-ce qu'on rénove l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique ou est-ce qu'on en fait un nouveau? Or, cette question-là a été complètement mise de côté. Quand on l'a soulevée, on disait non, mais ça a déjà été vu, donc maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que c'est... Et y compris cette façon de poser des débats, et sans les légitimer, génère des violences. Et Bruno a raison de dire que dans notre fonctionnement démocratique, toute cette stratification, expertise contre expertise, niveau de collectivité locale, avec tout le millefeuille que l'on connaît, l'intervention de l'État, l'instrumentalisation politicienne qu'il peut y avoir sur ces dossiers, empêche de regarder les choses à tête reposée et de façon apaisée. Et aux personnes qui disent « oui, mais quand même, c'est scandaleux par rapport au déni de démocratie suite à cette consultation », moi, vraiment, j'entends, lorsque cela est posé, et je veux faire passer ce message, c'est que nous-mêmes, en tant qu'opposants au projet et en tant qu'écologistes, on a souffert aussi de la façon dont cette consultation avait été posée, et cette façon de poser le débat n'était pas notre choix.
Bruno parlait de processus douloureux. Mathias Crouzet, le processus a été douloureux finalement pour tout le monde, et y compris pour vous, quand vous réentendez que, oui, les questions étaient pas posé comme il fallait les poser, peut-être que le débat aurait été différent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On entend votre soupir, monsieur Crouzet.
Non, parce que cet argument, on l'a entendu, c'était celui de la commission de la médiation, c'était celui aussi des opposants qu'on nous sourinait, que finalement, les gens qui avaient s'étaient déplacés massivement pour soutenir ce projet de transfert ne l'avait pas fait en connaissance de cause. En fait, quand on regarde les documents qui étaient distribués lors du vote, ce qu'on appelle la propagande, que ce soit des idées pour ou des idées contre, il y avait également aussi l'hypothèse du réaménagement de Nantes Atlantique qui était posée déjà à l'époque. Et les gens se sont exprimés en connaissance de cause. Par contre, je rejoins effectivement votre auditeur sur le fait que ça pose une réelle question sur la démocratie, sur la manière dont on fait les choses aujourd'hui en France et sur la légitimité d'une décision qui est prise sous la pression de gens violents. Ça, c'est extrêmement problématique selon nous.
François, au 01 45 24 7000, toujours dans la même veine et sur ce même genre de questionnement. Bonsoir François, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Bonsoir. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui correspondent à ce que je pense dans ce qui vient d'être dit. Moi, je suis pas dans la région nantaise, donc je n'ai pas d'avis sur le bien fondé d'un aéroport ou d'un autre. Mais la première chose, c'est que au bout de 50 ans, il y a eu une décision de prise. Bonne, mauvaise, je sais pas. Mais il y a eu une décision de prise. Donc ça, je tire mon chapeau là-dessus. La seconde chose, c'est qu'il y a eu un référendum. Ce référendum, il était pour l'aéroport. Donc la décision prise, elle ne respecte pas l'avis du référendum. Et c'est dommage parce que c'est quand même la deuxième fois en France qu'un référendum est négatif, donne une décision et qu'elle n'est plus respectée après. Donc ça, c'est une question qui pose une question de la démocratie. Mais toujours sur la démocratie, c'est que notre démocratie, pour moi, elle commence à être malade. 189 décisions de justice pour un projet économique qui dure 50 ans. Comment est-ce qu'on peut faire n'importe quel grand projet en France si sans arrêt, il y a toujours des gens qui disent ce qu'on, qu'il faut aller en justice, d'attendre des jugements, d'appels, de cassation, de rappel, etc. On s'en sortira jamais.
François, on comprend effectivement votre préoccupation. C'est dans ce sens-là que je vais poser la question à nos invités. David Cormand, comment on fait pour qu'on ne recommence pas un tel processus pour un prochain grand projet, parce qu'il y en aura forcément d'autres? Comment on fait pour que effectivement, il n'y ait pas, combien il a raison François, 189 décisions de justice au fur et à mesure et puis un référendum qu'on abandonne à l'avenir? Qu'est-ce qu'on nous apprend au moins dans cette affaire de Notre-Dame-des-Landes?
D'abord, il n'y en aura pas d'autres. Il y en a d'autres. Des grands projets de ce type, des projets d'infrastructure. D'ailleurs, ils ont souvent en commun d'être des projets fort anciens. C'est-à-dire que c'est des projets qui sont dans les cartons depuis plusieurs décennies. Ce qui, entre nous, est jamais très bon signe quand même en termes de qualité d'un projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un contexte qui n'est plus celui de la sortie des Trente Glorieuses des années 70. C'est-à-dire qu'on a pris conscience, en tout cas je l'espère, et d'ailleurs c'était curieusement absent de la déclaration du Premier ministre, que nous avons connu un modèle de développement depuis un certain nombre de décennies qui n'est pas reproductible. Mmh. Et dans les types d'aménagements qu'il va falloir faire évoluer, voire abandonner, il y a tout ce qui correspond au développement infini du transport aérien, mais également du transport routier, y compris le pari qui a été fait en France des lignes LGV, de TGV contre les lignes de transport.
Qui apparemment
transport.
Sont abandonnées aujourd'hui, les lignes LGV, en tout
oui,
cas pour l'instant.
Oui, parce qu'il faut aussi prendre en compte la réalité des nouvelles données qui sont, et que tout le monde partage. Quand on parle de changement climatique et de raréfaction de l'argent public, c'est bien des données qu'il faut prendre en compte.
Mais dans le sens de la question de François, c'est le grand projet en soi, mais c'est aussi surtout comment on y va débat. Est-ce que le processus, tous ces processus ne sont pas intégralement à revoir pour éviter qu'on se retrouve avec une décision de justice contre une autre, tout le temps, pendant des années?
Oui, vous avez raison, mais quand il y a des recours en justice, il faut bien comprendre que ça fait partie des outils qu'utilisent des militants ou des personnes qui sont contre pour obtenir ce qu'aurait pu être accordé dès le départ, à savoir le travail, par exemple, de la commission de médiation. Le fait de poser ces alternatives aussi clairement, ce qui n'a jamais été fait, c'est pas vrai de dire que ça a été fait aussi clairement, ça aurait pu être fait dès l'origine. Et c'est ça qui a manqué, et à chaque fois qu'il y a un grand projet inutile, il ne faut pas croire que les opposants se contentent d'être contre tout. À chaque fois, sans exception, que les écologistes et que nous sommes opposés à un grand projet que nous qualifions d'inutile, sans exception, nous proposons des alternatives qui sont plus respectueuses de l'environnement, qui ne sont pas pénalisantes pour l'économie et qui coûtent moins d'argent public.
Mathias Crouzet, je vais vous donner la parole dans un instant. Je voudrais d'abord, pour faire avancer le débat, qu'on écoute Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute. Vous êtes nantaise, Elisabeth, c'est important de le préciser.
Oui, je suis nantaise. Donc moi, en fait, j'étais pour le projet nouvel aéroport de Nantes, pour des tas de raisons qui ont été expliquées depuis des années. Et c'est un sujet très, très clivant. Donc, je ne vais pas revenir sur la décision qui a été prise. De toute façon, tout le monde avait raison et tout le monde avait tort. Enfin, c'était vraiment du 50-50. Enfin, voilà. Donc, OK, j'admets. Par contre, le Premier ministre m'a pas du tout convaincue en début d'après-midi, car, je cite, il a dit « les conditions ne sont pas réunies ». D'accord, quelles conditions? Et ensuite, c'est le projet de la division. Souvent, sur un projet d'une telle ampleur, il y a toujours de la division. Donc, je ne sais pas, je comprends pas comment ce gouvernement veut faire des choses importantes. Enfin, voilà, si ce n'est en les enterrant, parce que c'est trop difficile à gérer. Ensuite, sa solution à lui, c'est qu'on doive prendre le rail pour aller à Paris. C'est bien, bah, qu'il me les finance, hein, les 180 euros aller-retour pour faire Nantes-Paris, je suis d'accord. Mais non, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord s'il me les finance. Voilà.
Merci beaucoup Elisabeth. Mathias Crozet, sur les justifications du Premier ministre, voici les raisons pour lesquelles on ne fera pas Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous aussi, vous êtes resté sur votre faim comme Elisabeth? J'imagine que oui.
Évidemment, enfin, déjà, je voulais m'inscrire en faux avec par ce qui a été dit par Monsieur Corman, à savoir que le projet des opposants, ça a toujours été pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ni ailleurs, parce que ça ne correspond pas tout simplement à leur vision de la société. Et tous les obstacles qui ont été ceux auquel s'est confronté le projet de Notre-Dame-des-Landes, ce qui a été dit, plus de 180 décisions de justice pour des votes, etc. Toutes ces difficultés-là, elles seront de nouveau rencontrées avec un éventuel réaménagement de Nantes-Atlantique. Quand le Premier ministre nous dit « on va vous aider, vous, Nantais, à aller prendre le train à Paris », ok. Et en même temps, on nous dit « ah ben non, on va arrêter d'investir dans des lignes à grande vitesse et on va privilégier les trains du quotidien ». Donc il y a une espèce de stratégie d'enfumage où on nous promet des choses qui n'ont ni été étudiées, qui ne sont absolument pas financées. Pour améliorer la liaison pour se rendre à Orly, imaginez bien que ça coûterait jusqu'à 3 milliards d'euros. Donc évidemment, ça on les a pas aujourd'hui. Donc c'est un enfumage complet et très concrètement, les difficultés qui ont été celles du projet de Notre-Dame-des-Landes, on les retrouvera de toute façon sur les autres projets.
David Corman, des questions sur l'argent que vient d'évoquer en partie Mathias Crouzet. Il y en a beaucoup, notamment sur franceinter.fr. Il va falloir maintenant payer les indemnités, nous dit cet auditeur, comme ça a déjà été fait d'ailleurs pour l'écotaxe. Nos politiques responsables mais pas coupables, incapables de prévoir, et c'est nous qui allons payer. D'où vient cette compensation de 350 millions d'euros en faveur de Vinci? N'y a-t-il pas moyen de renégocier ce montant maintenant? J'habite en Vendée, je suis simple contribuable, je paie mes impôts. Ma question est, combien a coûté et va coûter cet abandon, les études, les rapports, les enquêtes et le dédommagement de Vinci? Beaucoup d'inquiétudes autour de l'argent que va coûter le nom à Notre-Dame-des-Landes. Pour autant, rien n'est gratuit derrière.
Non, et d'ailleurs, si le projet Notre-Dame-des-Landes avait dû aller jusqu'à son terme, là non plus, ça n'aurait pas été gratuit. Sur les engagements avec Vinci, j'imagine, c'est pas moi qui vais les mener, mais qu'il y aura des négociations avec Vinci, mais enfin, je rappelle que Vinci est notamment un opérateur d'autoroute qui gagne beaucoup d'argent grâce à ce qui a été cédé par l'État à sa gestion. Et donc, je considère que l'État, la force publique, a une capacité de négociation avec Vinci et qu'on n'a pas vocation non plus à se soumettre aux desiderata de ces entreprises privées. L'essentiel de leur activité est lié à des projets d'investissement de l'État ou des collectivités locales. Donc on a aussi collectivement notre mot à dire et on n'est pas obligé d'obéir à ce que serait Lucas s'il y en a une de Vinci.
C'est le sens de votre question, Jean-Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Puisqu'on est sur Vinci, allez-y.
Ben exactement, en fait, la réponse est plus ou moins donnée. Il s'agissait en fait pour moi tout simplement d'évoquer ce point, c'est-à-dire qu'il y a des appels d'offres en général qui sont initiés entre l'État et puis les sociétés privées. Et puis en général dans ces contrats, on a des clauses, et notamment des pénalités associées à un abandon de projet, etc. Moi, la question que je voulais poser, c'était qui effectivement va payer dans cette situation, hein, puisque c'est bien ce qui va ressortir. Entre autres, évidemment, de ce contrat.
Mathias Crouzet, sur Vinci, effectivement indemnisé, mais pas seulement, en fait. Hein, y a aussi tout l'argent que ça coûtera derrière. Est-ce qu'on a une idée du prix du réaménagement, du prix des travaux qu'il faudra effectuer derrière? Est-ce alors, que ça a été chiffré aussi ou pas?
Alors, qui va payer? Eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est nous, puisque ça viendra nécessairement de nos poches. Et ça a été évidemment évalué, parce que si on prend le coût de l'indemnité à Vinci, il y a un contrat qui a été signé, donc je veux bien qu'on puisse dire non, on veut pas payer, maintenant il y a un contrat qui a été signé avec des clauses. Effectivement, je vous rappelle, et comme vous, c'était plus d'un milliard d'euros. Sur la partie Notre-Dame-des-Landes, effectivement, on va à Nantes-Atlantique. C'est-à-dire des coûts de réaménagement qui ne sont pas jusqu'alors financés. Les élus locaux ont dit qu'ils ne financeraient pas un éventuel réaménagement de Nantes-Atlantique. Ensuite, on a cette pénalité à payer. On a l'indemnisation des habitants de Saint-Aignan-de-Grandlieu, que je vous prie de ne pas oublier, qui sont sacrifiés sur l'autel de la pacification de la ZAD par Emmanuel Macron. Tout ça, nous, on le chiffre à plus d'un milliard d'euros. Et ça, c'est sans prendre en compte les éventuelles compensations promises ce matin par Édouard Philippe. Donc tout ça va nous coûter extrêmement cher. Et dans une situation où on évoque un sérieux budgétaire nécessaire, je vois pas du tout comment ça pourrait être possible.
Alors j'entends les arguments qui viennent en disant que ça coûtera toujours moins cher de toute façon que la création ex nihilo d'un autre aéroport, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les études, les rapports, les enquêtes, David Cormand, est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire, voilà en combien de temps on peut de toute façon réhabiliter l'aéroport de Nantes-Atlantique, le rendre plus effectif et plus efficace?
Non, en tout cas, moi, je l'ignore très franchement. Après, comment dire, ce ne sont pas des considérations techniques, considérations financières, elles sont importantes, mais c'est technique, qui doivent guider aux choix qui sont les nôtres. Moi, quand même, j'aimerais inscrire le débat que nous avons dans un cadre qui est plus large, qui est celui de quelle société on veut construire avec les contraintes que l'on connaît. Tout le monde se réjouit, par exemple, quand il y a la COP21 à Paris, de la nécessité d'arrêter avec les rejets de gaz à effet de serre. Et en même temps, on nous explique qu'il faudrait continuer à investir de l'argent pour construire de nouveaux aéroports. Dans la question des coûts, je rappelle quand même que j'imagine que pour éviter les transports en voiture, on aura fait un transport public entre la métropole de Nantes et ce nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Combien ça coûte, ça à faire? Donc il y avait tous des coûts induits aussi si on faisait un nouvel aéroport. Et quant au raccordement quand même de Nantes, via le TGV à la région parisienne. Je rappelle qu'il y a une région, moi je suis élu de Normandie, où des TGV par exemple on en a zéro. Toute la Normandie n'est pas à proximité de l'Île-de-France. Donc cette espèce de concurrence entre les territoires en disant « mais nous sommes plus oubliés que les autres ». Enfin, la France, c'est pas un pays où toutes les métropoles vont avoir leur aéroport international, leur gare de TGV, parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Et d'ailleurs, c'est même pas souhaitable. J'entends moi l'argument, peut-être on aura des questions là-dessus, sur le développement économique. Mmh. Aujourd'hui, sans aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la métropole de Nantes, c'est une des trois métropoles en France qui est déjà la plus attractive. Donc c'est un territoire qui est déjà dynamique en matière économique. Et donc l'espèce d'équation de dire il faut continuer à mettre des centaines de millions pour faire des nouveaux aéroports parce que c'est comme ça qu'on développe un territoire, c'est une équation qui en réalité ne fonctionne pas. Par contre, ce qui permet la résilience d'un territoire, c'est plutôt des valeurs un peu nouvelles, c'est-à-dire préserver l'environnement, préserver une agriculture différente de celle qui est majoritairement pratiquée aujourd'hui. Et moi je fais le pari que ce qu'incarne Notre-Dame-des-Landes en termes d'imaginaire de vie, c'est plutôt un atout pour la métropole nantaise et pour la région du Grand Ouest qu'un handicap.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut que cette, ce qui était la ZAD, on va l'appeler au passé, doit rester une sorte d'espace d'expérimentation sociale? Est-ce que vous, vous approuveriez ce genre de choses, ou est-ce qu'il faut dire aux zadistes aujourd'hui, partez, et effectivement cette zone sera retravaillée, refaite, mais certainement pas avec vous?
Vous savez, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce que l'on appelle les zadistes, qui recouvrent des réalités extrêmement diverses. Il y a, parmi ce que l'on appelle des zadistes, des militants politiques autonomes, qui souhaitent avoir recours à la violence. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours condamné le recours à la violence comme méthode de militance, mais ce sont des personnes qui, dans leur immense majorité, ne sont pas à résidence, si j'ose dire, sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, c'est quoi ce que l'on appelle les zadistes et qui sont toute l'année à Notre-Dame-des-Landes? C'est des gens qui soit sont des paysans, des agriculteurs historiques du site, soit des personnes qui sont venues s'y installer pour expérimenter d'autres formes d'agriculture. Je pense que c'est un capital qui doit infuser et qui est une richesse pour ce territoire. Donc il faut en discuter, c'est à eux de voir s'ils veulent rester, dans quelles conditions. Je ne crois pas qu'il faille l'imposer. Ce qui est sûr, en revanche...
C'est à eux de voir, les gens qui sont installés sur la ZAD aujourd'hui, à eux de voir...
Avec les personnes qui y étaient avant et qui ont vendu leur terrain quand il y a eu les expropriations. Si vous voulez, c'est une discussion qui doit nécessiter du temps et de l'apaisement. Par contre, ce qui est clair, et moi là-dessus je suis... assez ferme, c'est que maintenant que l'objet de la lutte a été retiré, ce qui concerne notamment les routes départementales dont l'accès n'était pas toujours garanti, là il faut maintenant assez rapidement trouver une solution parce qu'il n'y a plus lieu de maintenir ce mode de militance.
Mathias Crouzet, est-ce que vous avez le sentiment que ce terrain pourra à nouveau être utilisé, servir à quelque chose, qu'on verra revenir les gens qui avaient été expropriés? Est-ce que vous craignez ou pas que cet endroit reste une espèce de zone de non-droit, et j'y mets des guillemets puisque je sais que déjà je vais recevoir du courrier si je dis non-droit, mais voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous avez cette crainte-là, ou est-ce qu'on peut imaginer quelque chose malgré tout dans cette zone, selon vous, vous qui êtes sur place?
Alors, justement, moi je suis sur place, donc je connais les situations. Je trouve l'attitude de M. Cormand extrêmement méprisante vis-à-vis des habitants du Grand Ouest qui, finalement, se trouvent très bien comme ça et n'auraient pas plus besoin de se développer que ça. C'est une attitude très parisianiste qu'on entend
normand,
extrêmement
monsieur.
Souvent. Oui, vous êtes normand, comme moi, je suis...
Vous connaissez la chanson « Les imbéciles heureux » qui sont nés quelque part. Moi, je suis né en Normandie.
Vous êtes parisien, vous avez une vision parisianiste du dossier et une vision aussi idéaliste de la ZAD. La ZAD, excusez-moi monsieur, ce ne sont pas des gentils... Ce ne sont pas uniquement des gentils écologistes qui aimeraient vivre différemment dans le respect de la nature et des hommes. Ce sont pour beaucoup des gens extrêmement violents qui rejettent l'État, qui rejettent toute forme d'autorité. Dès qu'il y a eu des manifestations à Nantes, à Rennes, on a bien vu le résultat, y compris sur des sujets qui étaient autres que celui de l'aéroport. Encore une fois, la loi travail, le centre-ville de Nantes était à feu et à sang, et pour certains, les gens venaient de la ZAD. Alors, se dire que aujourd'hui, parce que on leur a donné raison, ces gens-là vont très gentiment prendre leur clic et leur claque, et peut-être, pourquoi pas, aller occuper un autre chantier, ce n'est pas vrai. Ils le disent eux-mêmes. Ils ne veulent pas partir. Ils sont chez eux. Notre-Dame-des-Landes est un lieu où ils ont gagné. Et je pense que non, ils ne partiront pas tout seuls. C'est illusoire de penser un jour que la ZAD se tarira d'elle-même.
Bonsoir Emmanuel.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, bienvenue sur France Inter, on vous écoute.
Merci beaucoup. Écoutez, moi, je suis pas nantais, hein, et puis
c'est pas grave, Emmanuel.
Mais je vais pas parler de la ZAD, des violences, etc. Parce que ça me concerne, je dirais, comme tout un chacun, mais pas plus que ça. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu en tant que vieux militant de Greenpeace, et pas par l'âge, hein, mais par la durée, c'est qu'est-ce qu'on va faire à grand lieu. Alors, Grandlieu, c'est le plus grand lac naturel français, 6000 hectares. C'est une zone à la biodiversité absolument incroyable. J'espère que je vais choquer personne, mais incroyable par rapport au champ de patates de Notre-Dame-des-Landes. Et Grandlieu, il se trouve au bout des pistes de l'actuel aéroport. Alors, moi, je ne suis pas pour les aéroports. Hein, je trouve que c'est peut-être... Il y a peut-être d'autres moyens que de construire effectivement des aéroports partout, mais je m'inquiète beaucoup pour... cette zone qui est classée internationalement, elle est Natura 2000, elle est Ramsar, c'est une zone de migration, elle est sur toutes les zones de migration, enfin tous les panneaux de migration passent par là. Et quand j'entends dire qu'on va réaménager l'aéroport de Nantes-Atlantique, alors je m'inquiète effectivement pour les gens qui habitent autour, hein, J'ai un frère qui habitait longtemps à côté d'un aéroport en région parisienne, j'imagine qu'ils peuvent vivre, mais je m'inquiète plus encore pour la biodiversité de, du lac de Grandlieu, de la, la zone naturelle sensible de Grandlieu.
Merci pour votre question, Emmanuel. David Cormon, est-ce qu'on risque de se retrouver avec des débats similaires à cause effectivement de ce lac de Grandlieu si on étend la piste de l'aéroport de Nantes-Atlantique?
Emmanuel a raison de poser cette question, et c'est d'ailleurs, si je me rappelle bien, un argument qui était utilisé par ceux qui étaient favorables au transfert en disant mais ça va préserver ce lac. Aujourd'hui, ce lac et ce site existe déjà, accueille beaucoup d'oiseaux, notamment des oiseaux migrateurs, alors qu'il y a la présence de Nantes Atlantique. De ce que je comprends de la rénovation de Nantes Atlantique, le problème de Nantes Atlantique, c'est pas qu'il y ait besoin de plus de pistes. C'est une question d'accueil dans le, sur le terminal pour les personnes qui veulent prendre l'avion. Et donc, moi, je pense que l'aménagement de l'aéroport...
Mais pas seulement, en fait. Hein, c'est aussi une question d'arrivée des avions pour que ce soit moins nuisible, justement.
Pour que
c'est
les, les avions puissent arriver...
C'est pas une question de longueur, c'est une question d'amorce.
Et donc, là, c'est ça qu'il faut voir pour éviter. Mais si c'est pour faire arriver les avions de plus haut, il n'y aura pas d'interférence. D'ailleurs, il y avait une étude des services de l'État qui témoignait que, y compris la préservation de ce site Natura 2000, il faut comprendre que Notre-Dame-des-Landes... Nantes-Atlantique est assez proche de l'agglomération nantaise. D'ailleurs, pour se dire la vérité, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on voulait le déplacer. C'est qu'on voulait récupérer de la maîtrise foncière à proximité de la métropole de Nantes et donc déplacer l'aéroport plus loin. Et donc la présence de Nantes-Atlantique, paradoxalement, a plutôt protégé ce site puisqu'il n'y avait pas de concurrence d'usage entre le lac en question, ses abords classés Natura 2000 et d'autres territoires, parce que la présence même de l'aéroport, et notamment les nuisances de bruit, empêchait une extension de l'urbanité. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait d'incompatibilité entre notre Nantes-Atlantique et le lac de Grandlieu. Je pense même, pour dire les choses, plutôt l'inverse.
Mathias Crouzet, vous vouliez intervenir. Allez-y, Monsieur Crouzet.
Oui, alors, encore une fois... un nombre d'inexactitudes. D'abord, la commission de médiation elle-même nous dit qu'on doit, on devra, ne serait-ce que pour nous mettre en conformité avec les nouvelles approches, avec la nouvelle réglementation internationale de l'aviation civile, on devra de toute façon rallonger la piste. Ça, c'est un fait. C'est pas qu'une question d'aérogare et de parking, comme je l'entends souvent. C'est aussi une question de piste. Donc, il y aura des travaux sur la piste à rallonger. Et on nous dit souvent, oui, Nantes Atlantique protège le lac de Grandlieu. C'est complètement faux. Le lac de Grandlieu est protégé par une zone Natura 2000. C'est le système de classement le plus important au niveau de l'européenne. Il est également protégé par la loi littorale. Donc, avec ou sans aéroport, le lac de Grandlieu, il est protégé. Maintenant, on ne peut pas imaginer qu'avec un trafic qui augmente, qui atteindra les 9 millions de passagers d'ici 2030, on n'ait pas un impact sur les oiseaux. Quand bien même on nous dit « Ah, les oiseaux se sont habitués aux avions », les avions ne se sont pas habitués aux oiseaux. Il y a encore eu, pas plus tard que la semaine dernière, un avion qui a dû se poser en urgence, puisque lors de son décollage, il avait aspiré des oiseaux dans ses réacteurs. Est-ce que vous trouvez ça rassurant? Moi, absolument pas.
Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
C'est de Montpellier que vous nous appelez, vous, on vous écoute, allez-y.
Oui, j'avais une question concernant l'adaptation de l'aéroport de Nantes à une augmentation du trafic. J'ai entendu dire que l'aéroport de Genève, si on le prend en comparaison, avait une seule piste, comme l'aéroport de Nantes, et actuellement, il accueille près de 17 millions de passagers par an. En fait, qu'est-ce qui bloque sur l'aéroport de Nantes pour augmenter le trafic?
Alors, une question très concrète pour vous, Mathias Crouzet. Tiens, qu'est-ce qui empêche... Allez-y, bien sûr, allez-y.
Alors, on a interrogé l'un des directeurs de l'aéroport de Genève qui est venu nous voir il y a 2 ans pour nous expliquer que si Genève, avec une piste, arrivait à avoir autant de trafic, c'était au prix de plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement annuel en travaux. Tout simplement. Et que la question, en fait, c'est pas une piste, deux pistes. Si à Notre-Dame-des-Landes, on avait fait deux pistes, c'était simplement pour limiter le survol des bourgs et de pouvoir atterrir par tout temps. Donc la question, elle n'est pas vraiment sur une ou deux pistes. Elle est plutôt sur la longueur de la piste, sa position, et puis évidemment sur les capacités d'accueil, ne serait-ce qu'en nombre de parkings d'avions, en termes de parking pour les automobilistes, et en termes d'aérogare pour les passagers.
Mais est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, Mathias Crouzet, pardon, est-ce que l'aéroport d'Antin Atlantique est un aéroport en saturation ou pas, concrètement?
Il est en saturation plus de la moitié des jours de l'année. Il y a des jours, effectivement, vous allez pouvoir prendre l'avion à peu près normalement. Et puis il y a des jours où vous allez presque risquer de rater votre vol, tellement il y a la queue au guichet de sécurité. Prenez un exemple, pendant les dernières vacances, il y avait des vols qui arrivaient hors de l'espace Schengen, donc avec des contrôles passeport qui se faisaient. Les gens, en arrivant en Nantes, pouvaient attendre jusqu'à 3 heures, et le contrôle aux frontières se faisait sous une tonnelle, dans le froid, directement, quasiment sur le tarmac. Donc évidemment que l'aéroport, il est saturé. Tous les gens qui connaissent l'aéroport, qui le pratiquent au quotidien, que ce soit les passagers ou que ce soit les entreprises qui travaillent à proximité, vous diront, il est à saturation, il y a une augmentation du trafic. On a atteint les 6 millions de passagers cette année. Ça dépasse toutes les prévisions. Et je vous dis 9 millions en 2030. Donc, quand bien même on réaménagerait l'aéroport de Nantes-Atlantique, la commission de médiation n'a pas de solution à nous proposer au-delà de 2030, au-delà de 9 millions de passagers.
Est-ce que, David Cormont, est-ce que ce sont des chiffres qui vous parlent, ou est-ce qu'on se dit que dans cette échéance-là, 2030, 2040, quand il y aura 80 000 vols annuels autour de cet aéroport, il faudra à nouveau repenser les choses, ou est-ce qu'au contraire, on est en train de reculer vers ces moyens de transport?
Et moi, tout ça, ça me fait penser à Madoff. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est toujours...
Oui.
On est en cavalerie.
Expliquez-nous.
Quoi. Ben oui, parce que c'est la cavalerie. C'est qu'on mise toujours que le développement du transport aérien avec des aéroports internationaux dans toutes les capitales régionales de notre pays vont se développer. Je crois que, d'ailleurs, le Premier ministre, à juste titre, l'a rappelé. Le modèle où chaque aéroport ou beaucoup d'aéroports sont des aéroports avec des vols long courriers qui arrosent l'ensemble des pays du monde, c'est terminé. Maintenant, ce qui s'est développé partout, c'est le système de hub. C'est-à-dire que vous prenez votre avion dans un aéroport régional qui vous emmène dans un aéroport international qui est un hub, et là, vous rebasculez sur la destination si vous prenez un long courrier. Et c'est ça le modèle qui est en train de dominer et de se développer, et c'est ce vers quoi on se développe. Et puis par ailleurs, je le redis, quelle logique on est? Est-ce qu'on pense que le modèle de développement où le transport aérien va rester dominant et continuer à se développer?
C'était le sens de ma question.
Que
en
le
fait,
modèle
qu'il faut...
de développement est viable? La réponse est non. On le sait, on peut pas à la fois dire qu'il faut lutter contre le changement climatique, qu'il faut changer nos modes de déplacement et dire que tout ça va continuer comme on a l'habitude depuis 30 ans et qu'il y aura une ligne comme ça avec une croissance régulière au-delà de 2030, au-delà de 2040, au-delà de 2050. C'est un modèle qui n'est pas tenable, pas seulement parce qu'il fait pas plaisir aux écolos, parce qu'il n'est pas physiquement tenable pour notre planète.
Christophe, vous vouliez réintervenir à Montpellier, allez-y.
Oui, ce que je comprends pas, c'est le précédent intervenant au niveau du budget. Le budget que met Genève pour adapter son aéroport, pour augmenter son trafic, est-ce que c'est qu'une question de budget? Et si c'est une question de budget, est-ce que ce budget n'est pas plus raisonnable que la construction d'un nouvel aéroport?
Monsieur Crouzet, pour répondre à notre ami Christophe.
Alors, juste pour préciser, le transport aérien, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pas du tout beaucoup plus. Alors, sur l'aéroport de Genève...
Vous êtes pour qu'il augmente, quand même.
Ah ben évidemment, parce que j'ai envie que ma région continue à se développer, j'ai envie que mes enfants, mes petits-enfants puissent avoir du travail, puissent s'ouvrir à différentes cultures,
bien qu'ils puissent respirer
voyager
aussi.
Donc, évidemment. Évidemment. Alors sur l'investissement, oui, enfin si on a 150 millions d'euros à mettre tous les ans, je dis bien tous les ans dans un nouvel aéroport, pourquoi pas? Mais encore une fois,
ça c'est le prix qu'à Genève on vous donne par exemple, on vous dit c'est 150 millions par an.
C'est l'investissement de l'aéroport de Genève. Eux, ils sont enclavés entre le lac Léman et entre les montagnes. Donc, ils n'ont pas le choix. Ce que nous dit le directeur de l'aéroport de Genève, c'est « Si moi, j'avais eu la possibilité, comme vous, de déplacer mon aéroport, ça fait longtemps que je l'aurais fait. » On avait cette possibilité qui nous était offerte avec Notre-Dame-des-Landes. Et ça, les différentes instances, y compris la Cour de cassation du tribunal administratif, ont admis que Notre-Dame-des-Landes était une hypothèse réaliste. Le rapport de Ségolène Royal a admis également que Notre-Dame-des-Landes était une hypothèse cohérente, et la commission de médiation a admis que Notre-Dame-des-Landes était une hypothèse cohérente également. Donc c'est encore une fois, c'est une question de choix. On avait cette possibilité-là qui nous était offerte, faisons-le.
Allez Isabelle, c'est vous la dernière, vous allez nous permettre de survoler un peu la région grâce à votre question, allez-y.
Bonsoir. Je vous remercie, c'est juste un témoignage. Je suis très, très, très déçue qu'il n'y ait pas cet aéroport Notre-Dame-des-Landes. Un simple exemple, moi je voyage toute l'année, Amsterdam, Barcelone, etc. Ça va continuer à être l'enfer. Je vais continuer à prendre mon avion, soit de Rennes, soit de Caen, soit de Nantes. Arriver à Charles de Gaulle, changer de terminal, arriver en retard et louper mon avion. Et passer des journées entières dans les transports.
Et vous pensez que...
Tout ça me coûte une fortune.
Vous habitez où, Isabelle ?
J'habite à Dinan.
D'accord. Donc l'aéroport le plus proche, techniquement, c'est celui de Rennes ?
C'est celui de Rennes, tout à fait.
Le regard régional, Mathias Cormand, ça avait été d'ailleurs beaucoup discuté.
Mathias Cormand, c'est une...
Vous êtes sur la même photo, David Cormand. On avait beaucoup reproché, notamment au moment du référendum, que finalement on l'avait restreint à une zone trop petite parce qu'il fallait demander leur avis à l'ensemble de la région. C'est un peu le sens aussi de la question d'Isabelle qui habite en Bretagne.
Oui, mais d'ailleurs, l'association qui défendait l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes s'appelait des ailes pour l'Ouest, et non pas des ailes pour
celle de Mathias Crouzet.
La Loire-Atlantique. Donc oui, mais encore une fois, enfin, moi je crois pas que la multiplication des aéroports, et surtout je crois pas du tout que la présence d'un aéroport soit dans les temps qui viennent, d'un aéroport international s'entend, soit la condition sine qua non pour développer un territoire. Et je suis confus de le dire, mais si toutes les personnes en France veulent un aéroport international à moins de 2 heures de chez elles, à moins d'une heure de chez elles, c'est tout simplement pas viable. Et donc à un moment, il faut choisir les modes de déplacement qu'on veut promouvoir, dans quel domaine on veut mettre de l'argent public et quel coût on est prêt à assumer pour l'environnement. Et donc là, on est dans un cas d'école, j'ai envie de dire, avec Notre-Dame-des-Landes, où est-ce qu'on continue dans la fuite en avant, où est-ce qu'on a un développement raisonné et raisonnable de ce type de déplacement.
Mathias Crouzet, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Est-ce que les ailes pour l'Ouest, c'est fini, ou est-ce que vous allez surveiller avec beaucoup d'attention l'extension ou les transformations qui peuvent avoir lieu à Nantes-Atlantique ?
Moi, je vais simplement terminer sur une citation. Une citation assez connue qui dit « Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur ». Vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. Emmanuel Macron a fait du François Hollande dans le texte. Il a choisi de renoncer sur Notre-Dame-des-Landes. Il aura la guerre avec les zadistes quand même. Il aura les élus locaux à affronter et il ne règle absolument pas le problème du développement du Grand Ouest. C'est un échec sur toute la ligne.
On aura l'occasion forcément d'y revenir et de suivre donc ce dossier aussi bien sur la ZAD que bien au-delà. Merci beaucoup.
Merci
à tous d'avoir participé à ce téléphone sonne et merci à tous qui avaient appelé très nombreux ce soir.